Bonsoir Stéphane, c'est sympa ça Will Smith. Will Smith, les gros bras, le petit cerveau, je ne sais pas comment le prendre. Merci en tout cas Stéphane, merci Mathieu, on vous retrouve demain historiquement vôtre, c'est tous les jours à partir de 16h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Comment reconfiner sans tuer l'économie? C'est l'équation impossible face à laquelle se trouve ce soir le chef de l'État. Car cette fois, ça y est, nous y sommes. Un reconfinement total du pays est à l'étude. Tout sera décidé dans les prochaines heures. C'était inimaginable il y a encore quelques jours. Alors notre économie pourra-t-elle tenir si la France est à nouveau à l'arrêt? On posera la question ce soir à un grand patron. C'est sa première prise de parole depuis le début de la crise sanitaire. Henri Proglio sera avec nous à 18h20. Il publie ses mémoires, on lui posera toutes les questions. On ira également ce soir aux États-Unis. Donald Trump peut-il encore gagner? Il vient en tout cas d'obtenir la nomination de la très conservatrice Annie Bennett à la Cour suprême. Alors est-ce que ça peut changer la donne du scrutin? On en parlera avec les grandes voix. Et puis à 19h15, dans le débat du Club des Idées, la France à l'heure du télétravail généralisé. C'est ce que devrait préconiser Emmanuel Macron. Mais alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Certains estiment que nous n'en serions pas là aujourd'hui. On débattra donc de tout cela avec nos invités tout à l'heure. Voilà pour le programme de ces deux heures. D'abord l'info avec le journal d'Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
On peut prendre toutes les mesures qu'on veut, mais il faut absolument qu'elles soient respectées. Sans ça, on ira vers une vraie saturation du système de santé, on ira vers un confinement généralisé, des fêtes de fin d'année qui seront tous sauf des fêtes familiales.
Le spectre d'un reconfinement national généralisé, le gouvernement à l'heure des décisions difficiles.
Oui, face à une deuxième vague qui s'annonce plus forte encore que la première, des mesures radicales devraient être annoncées d'ici jeudi.
Tout le monde à la maison, ou presque, les enfants pourraient être en partie épargnés par ces nouvelles mesures, les écoles pourraient rester ouvertes.
Avant même les annonces officielles, la grande distribution se prépare et se dit prête. Elle veut à tout prix éviter les pénuries qui avaient marqué, souvenez-vous, le début du premier confinement.
La crise diplomatique entre la France et la Turquie, Europe 1 est à Istanbul. Les Turcs divisés alors que leur président appelle à boycotter les produits français et cible Emmanuel Macron.
Ils ne sont plus que quatre, les quatre finalistes de prix Goncourt. Pas de stars, mais quatre écrivains que nous apprendrons à mieux connaître à la fin du journal.
Et puis nouvelle chute pour la Bourse de Paris qui termine ce soir en forte baisse de 1,77% à 4730 points.
La tendance météo du lendemain avec Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir,
journée très nuageuse au programme.
Oui, avec en plus des nuages, des averses sur une grande partie du pays, le vent qui va souffler fort sur la moitié nord, des températures qui, elles, seront de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et les prochaines 24 heures seront donc décisives. Les autorités consultent avant l'annonce d'un tour de vis, alors que tous les médecins et épidémiologistes s'accordent à dire que la seconde vague sera pire que la première.
C'est un nouveau tournant. Nous sommes, c'est vrai, un point de bascule et le gouvernement s'apprête à prendre de nouvelles mesures qui pourraient être, nous dit-on, radicales.
Oui, Louis de Raguenel, aujourd'hui, vous nous dites que l'hypothèse d'un reconfinement généralisé, que cette hypothèse n'est plus taboue.
Oui, et ça va même au-delà. C'est l'option sur laquelle travaille désormais le gouvernement. Quand le Conseil de défense s'est réuni ce matin, il y avait encore trois pistes sur la table. Tout d'abord, le couvre-feu à 19h et le week-end, le confinement local et donc le confinement partout en France. Et c'est vers cette troisième hypothèse qu'on se dirige ce soir. Alors, tout peut encore évoluer car la décision finale sera prise à l'issue du deuxième Conseil de défense qui se tiendra demain matin. Mais ce qui est certain, c'est que ce nouveau confinement ne ressemblera pas exactement à celui de mars. D'abord, il devrait durer 4 semaines, mais 4 semaines reconductibles. Ensuite, si le télétravail devrait être quasi obligatoire et que les commerces considérés comme non essentiels devront fermer, en revanche, les écoles et les collèges devraient rester ouverts, mais avec de nouveaux protocoles sanitaires. Et je peux vous dire qu'actuellement, le ministère de l'Économie et des Finances bataille pour élargir la liste des dérogations qu'on avait connues en mars, avec un seul but: éviter l'effondrement de l'économie. Un conseiller de l'exécutif explique l'enjeu. Si le président a vidé son agenda, que les partis politiques et les syndicats sont reçus, ce n'est pas pour annoncer des changements d'horaire de couvre-feu. Et il conclut, c'est pour annoncer quelque chose de grave et de dur. Et c'est vrai que le programme de l'exécutif a été totalement chamboulé. Les responsables des partis politiques sont actuellement reçus pour consultation à Matignon, puis ce sera au tour des partenaires sociaux en début de soirée. En tout cas, nous devrions tous être fixés demain soir, comme lors du premier confinement. Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français.
Merci Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. Et ces mesures pourraient prendre effet dès ce week-end.
Et on l'évoquait à l'instant, il y a la question de l'éducation importante. Faut-il fermer ou non les écoles? Victor Dolande, a priori, là aussi, le gouvernement pourrait revoir sa copie du printemps.
Oui, pas question, a priori, de laisser les élèves éloignés de l'école trop longtemps. On a vu les ravages du décrochage scolaire sur nos enfants après le confinement. Et puis l'école n'est pas un lieu de super contamination, comme l'explique Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital de Créteil.
Clairement, il faut maintenir les écoles ouvertes, parce que on sait depuis le départ que les enfants sont moins contaminés, ils sont moins contaminants. Quand je parle des écoles, je parle des écoles, je ne parle pas des collèges, je ne parle pas des lycées, encore moins des facultés.
Et pour les collèges et surtout les lycées et facultés, les épidémiologistes s'accordent à dire qu'il faut faire quelque chose. Entendez passer tous les cours au lycée et à la fac en distanciel et renforcer le protocole sanitaire au collège. Enfin, qu'en est-il sur le port du masque dès le CP? Comme l'ont fait avant nous nos voisins italiens et allemands, la question n'est pas encore tranchée, mais les médecins poussent le gouvernement à le faire. C'est une précaution de plus, il faut arrêter de tergiverser, me glissait tout à l'heure un spécialiste de santé publique. Réponse donc demain après le deuxième conseil de défense.
Merci Victor Delande pour ces précisions du service Société d'Europe 1.
Et voilà donc que ressurgit la perspective de longues semaines à la maison. Alors on se souvient qu'au début du premier confinement, les Français s'étaient rués dans les supermarchés pour faire des provisions, des stocks de papier toilette notamment, de farine ou de pâte, entraînant des pénuries momentanées.
Alors va-t-on revoir ces produits manquants dans les rayons comme parfois au mois de mars? Pour l'instant tout va bien et cette fois Carole Ferry, la grande distribution a pris des précautions.
Et oui, les grandes surfaces ont commandé plus qu'elles n'ont vendu au mois de septembre, 12% de plus, tous produits confondus, selon l'ILEC, l'Institut d'études des industries de consommation. Le rythme des commandes s'est même accéléré fin septembre, en particulier auprès des fabricants de produits d'entretien, de conserves de légumes et de surgelés salés. Le président de Panzani, Xavier Riecher, a même vu ses commandes de pâtes augmenter de 30% ce mois-ci.
La distribution avait des stocks. Nous-mêmes, on a augmenté nos stocks, ce qui fait que cette année, s'il y a une deuxième vague, on est beaucoup plus serein. Les choses sont bien gérées, il n'y aura pas de rupture de blé, il y aura suffisamment de blé pour pouvoir assurer l'ensemble de la production.
Et oui, parce qu'on était passé à deux doigts d'une pénurie de blé au printemps dernier. Les ventes de pâtes avaient à ce moment-là augmenté de 100% alors que la récolte était terminée et la production écoulée. L'État avait à ce moment-là débloqué en urgence des réserves destinées normalement à l'exportation. Cette fois-ci, donc, fabricants et distributeurs ont bien anticipé, mais rappellent que c'est la ruée disproportionnée sur les rayons qui avait provoqué des ruptures d'approvisionnement. Il y a du stock partout, ne rejouons pas mars 2020, tweet même ce soir Michel-Édouard Leclerc.
Tout ça vaut papier toilette.
C'est Carole Ferry de Service Éco d'Europe 1. Notez que tous les EHPAD de France recevront d'ici la semaine prochaine des tests antigéniques, vous savez, qui réduisent les délais de dépistage du coronavirus, qui devraient permettre en théorie d'éviter le développement de clusters.
Europe 1, Julien Bugier.
18h06, vous restez avec nous, la suite de votre journal dans un instant. Nous serons en direct d'Istanbul. Comment les Turcs réagissent-ils aux critiques et aux appels au boycott de leur président contre les produits français? Réponse dans quelques secondes.
Et puis la liste des 4 finalistes du Goncourt dévoilée.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h08, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Emmanuel Macron continue donc de subir les foudres d'une partie du monde musulman après avoir défendu la liberté de caricaturer le prophète Mahomet.
Vous savez que plusieurs pays du Moyen-Orient appellent au boycott des produits français et de nouvelles manifestations ont d'ailleurs eu lieu aujourd'hui, notamment à Dhaka au Bangladesh, rassemblement qui a réuni plus de 40 000 personnes.
Alors on évoquait hier les sorties très virulentes du président turc contre Emmanuel Macron. Europe 1 a voulu savoir comment réagissait la population sur place à Istanbul, où l'on retrouve notre envoyé spécial.
Jean-Sébastien Soellaini, que l'on retrouve tout de suite. Jean-Sébastien, vous êtes arrivé sur place hier soir. Alors, en tant que Français, comment s'est déroulé votre premier contact ?
Eh bien, ce premier contact a été plutôt glacial. Ce n'était pas en Turquie, c'était en salle d'embarquement à Roissy. Mon avion devait arriver très tard. Je tente donc d'interroger les Turcs qui rentrent chez eux. Mais là, sur la cinquantaine de passagers, c'est à chaque fois refus catégorique. La même moue réprobatrice, c'est resté très courtois, mais c'était clairement une réaction de rejet. Ces passagers me font bien comprendre qu'ils ne veulent pas me parler, qu'ils n'apprécient pas la façon dont les médias français se sont emparés de la polémique entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Vu le contexte, c'est donc un peu méfiant que je me rends ce matin dans un bastion du président turc, le quartier de Kasımpaşa, où il est né, où il a grandi. Je m'attends à quelques remarques, mais non, j'y suis très bien accueilli. Les habitants m'expliquent pourquoi ils approuvent le boycott voulu par Recep Erdogan. Ils expliquent sereinement que leur chef d'État ne fait que défendre l'islam, même si ses mots sont très durs. Et pour vous dire à quel point je suis bien accueilli, le propriétaire du café où je me suis installé pendant 2 heures pour travailler a refusé que je paye mes consommations. Ça justifie. Quand un ami vient chez moi, je ne lui fais pas payer le repas.
Bien, léger changement d'ambiance. En revanche, Jean-Sébastien, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure, léger changement d'ambiance quand vous êtes arrivé dans les quartiers ultranationalistes.
Oui, là, c'est plus compliqué d'aborder les passants. Ils s'arrêtent gentiment quand vous leur parlez, mais ils tournent les talons quand vous leur dites que vous êtes français. Je tente alors ma chance dans un café. À peine une discussion entamée qu'un client m'interpelle. Il veut à tout prix exprimer son désaccord avec la position française sur les caricatures de Mahomet. Le ton est vif. En revanche, tous les clients rencontrés ont ce même argument. Ce n'est pas au peuple français qu'on en veut, mais à leur président. Hors de question d'effrayer les touristes déjà très absents des rues d'Istanbul à cause de la pandémie.
Merci beaucoup Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial donc d'Europe 1 à Istanbul, et Paris invite ce soir ses ressortissants à la prudence dans les pays du monde musulman où ont lieu des manifestations contre la France.
En France justement, la fermeture temporaire pour 6 mois de la mosquée de Pantin a été validée par la justice administrative.
Elle était réclamée par le ministre de l'Intérieur après l'assassinat de Samuel Paty. Les avocats de la Fédération musulmane de Pantin annoncent qu'ils vont saisir le Conseil d'État. C'est un poids lourd de la restauration collective. Sodexo s'apprête à supprimer plus de 2000 emplois victimes de la crise et du recours au télétravail. On y reviendra dans notre journal de 19h.
Dans la crise que connaît actuellement notre pays, c'est sans doute l'un des rares secteurs à sortir la tête de l'eau, l'édition.
Et oui, les Français ne pourront peut-être bientôt plus aller au cinéma ou au théâtre, mais lire, ça c'est encore possible et c'est même vivement conseillé pour éviter la déprime.
Oui, parmi les succès d'édition chaque année, évidemment, le prix Goncourt. Alors on connaît depuis aujourd'hui les 4 finalistes.
Et pas de vedette, Nicolas Caro.
Et non, et c'est une première, les 4 finalistes ont été désignés par vidéoconférence. Alors par ordre alphabétique, comme dans les prix littéraires, Djaili Amadou Amal d'abord, publiée pour la première fois en France, elle est camerounaise et signe Les Impatientes chez Emmanuel Colas. Elle y raconte le destin de 3 femmes au Sahel, des destins qui se croisent avec au cœur du roman la condition des femmes, la violence, le mariage forcé. Ensuite, Hervé Le Tellier, L'Anomalie chez Gallimard, c'est un roman génial, complètement dingue. Un vol Air France Paris-New York est dupliqué, c'est-à-dire que tous les passagers se retrouvent avec un double d'eux-mêmes dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? C'est virtuose. Maëlle Renoir, ensuite, chez Grasset. L'historiographe du royaume, ça se passe au Maroc. Le narrateur se retrouve au collège royal avec le prince. Il sera nommé historiographe du royaume, écrivain officiel si vous voulez. Et ce faisant, on revisite toute l'histoire politique du Maroc du début des années de plomb. Et enfin, Thésée, sa vie, nouvelle de Camille de Toledo chez Verdier. Un homme fuit un souvenir, un secret. Il laisse tout, il part avec sa famille, mais le passé le rattrape et il lui faut l'affronter.
Vous avez un préféré, Nicolas?
Oui. Hervé Le Tellier, L'Anomalie.
Il ne faut pas le dire.
Nicolas Caro, spécialiste littérature d'Europe 1.
Rendez-vous le 10 novembre pour connaître le lauréat. Notez que ce soir, c'est aussi le Festival de Cannes. Et oui, tapis rouge, projection, palme d'or, mais en mode Covid. On en parlera tout à l'heure à 19h50.
Et puis on parlait de la Turquie. Et bien demain, le PSG joue à Istanbul justement contre le Başakşehir en Ligue des Champions. Rennes sera également demain sur le terrain du FC Séville.
Mais ce soir, c'est l'OM qu'on va suivre bien sûr. Marseille qui reçoit Manchester City en Ligue des Champions. Match à huis clos, et oui, contexte sanitaire oblige.
Les Marseillais qui ont à cœur de se rattraper après leur défaite la semaine dernière contre l'Olympiakos. Coup d'envoi à 21h, mais grosse soirée foot, hein, dès 20h sur Europe 1 sous la houlette de Lionel Rosso.
Et puis le numéro 1 français du tennis, Gaël Monfils, met un terme à sa saison 2020. Il ne jouera donc pas le Master 1000 de Paris-Bercy la semaine prochaine.
Ouais, il va pas fort, Gaël Monfils. Le confinement m'a éteint, dit-il. Il m'a fait beaucoup de mal. Je suis revenu sans avoir énormément de confiance. J'ai pas du tout réussi à m'adapter, à faire les bons choix. Gaël Monfils qui évoque une grosse spirale négative avec beaucoup, beaucoup de manque de confiance.
Bah dites donc, ça va pas fort effectivement. J'espère que vous allez mieux vous, Isabelle Millier, parce qu'on a besoin de vous. On vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et à 19h pour le grand journal de l'info. La météo avec Anissa qui va fort elle, mais qui nous annonce des mauvaises nouvelles, j'allais dire des bonnes nouvelles, vous voyez.
Bon, on essaie de garder le sourire. Hein,
un temps nuageux pour demain avec des averses.
Oui, en Normandie, Bretagne, sur les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, dans toutes ces régions, les nuages seront nombreux et ils pourront lâcher quelques gouttes en début de journée. Ailleurs, c'est un ciel couvert. Attention, le vent souffle fort sur les côtes de la Manche et sur toute la moitié nord du pays, jusqu'à 70-80 km/h dans les grandes villes. Dans l'après-midi, les averses vont concerner presque tout le pays, avec toujours beaucoup de vent sur la moitié nord, des orages sur les côtes de la Manche et la mer du Nord, des chutes de neige sur les Alpes à partir de 2000 mètres, et puis sur le bassin méditerranéen, allez, je finis avec les bonnes nouvelles, sur le bassin méditerranéen, la vallée du Rhône et la Corse, là, le soleil brille dans un ciel complètement dégagé, il va faire très beau dans le sud demain. Les températures, ce sont des températures de saison qui remontent légèrement, avec 7 à 13 degrés demain matin, et 13 à 22 au meilleur de la journée, 13 à Verdun, 15 à Paris, Nancy et Clermont-Ferrand, 17 à Toulouse, Bordeaux et Lyon, 18 pour Nice et Grenoble, 20 à Marseille et 22 la maximale pour Perpignan demain.
Bien, profitez-en si vous habitez Perpignan. Merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 18h14. Dans quelques secondes, le regard d'un ancien capitaine d'industrie sur la crise sanitaire et ses implications économiques. Henri Proglio, qui a dirigé EDF et Veolia notamment, est notre invité.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et notre invité ce soir à 18h17, il est l'un des visages de l'industrie française. Ancien patron notamment d'EDF, ancien patron également de Veolia. Il est aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise. Homme d'influence également, il publie ses mémoires, plus de 40 ans dans le monde des affaires. Bonsoir Henri Proglio.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre ouvrage s'intitule Les joyaux de la couronne. C'est aux éditions Robert Laffont, en partenariat avec Pierre Abou. C'est un récit absolument passionnant sur votre parcours et votre vision de l'industrie française. Votre parole compte, Henri Proglio, vous le savez, et pourtant vous ne vous êtes pas encore exprimé sur cette crise que traverse notre pays. D'abord, comment est-ce que vous jugez l'action du gouvernement? Des annonces sont attendues évidemment demain, a priori, on parle de reconfinement. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que la crise a été plutôt bien gérée ou tout cela est la conséquence d'une mauvaise gestion de la part de l'exécutif?
Écoutez, sur ce sujet-là, j'ai tendance à être plutôt prudent, dans la mesure où tous les pays qui nous entourent sont plus ou moins logés à la même enseigne, quelles qu'aient été les orientations prises. Donc, je crois qu'il faut être prudent en ces jugements. Force est de constater que ça n'est pas une grande réussite, les aléas de la pandémie sont tels que on peut encore comprendre les hésitations.
Parce qu'il y a l'enjeu économique derrière, outre l'urgence sanitaire. Et c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que notre pays, notre économie, se relèvera d'un nouveau confinement, même local, s'il se confirmait demain? Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, que vous connaissez, disait hier, oui, il y a un risque d'effondrement. Reprenant d'ailleurs les mots d'Edouard Philippe, est-ce que c'est aussi votre analyse? Il y a un risque d'effondrement de notre économie. Ce sont des mots graves.
Oui, certainement. Non, ils sont graves et justifiés. Notre économie est fragile, d'abord parce que la France est désindustrialisée au cours des dernières années de façon accélérée.
C'est ce que vous expliquez dans le livre aussi.
Oui, et l'industrie est difficile à reconstituer. On a cru que les services allaient prendre la place de l'industrie, qu'au fond, la nouvelle technologie et le nouveau monde allaient effacer l'ancien. Force est de constater que les pays qui s'en tirent le mieux sont les pays industrialisés, qu'on a beaucoup perdu en autonomie et en indépendance et en compétitivité, et que par conséquent, on part avec un handicap dans cette crise.
Mais vous pensez qu'il est possible, comme le souhaite l'exécutif, c'est l'un des aspects du plan de relance, de relocaliser notre industrie ou c'est déjà trop tard?
Je ne suis pas du genre à abandonner. Par conséquent, je crois que les combats ne sont jamais inutiles et les efforts jamais inutiles. On aura plus de mal que d'autres à relancer la machine. Il faut la reconstruire. On a ces secteurs d'expertise, des secteurs d'excellence qu'on a laissé filer. J'ai en particulier l'image du nucléaire en tête. Au moment où, justement, cette industrie va se redévelopper, va connaître un nouveau rebond, c'est vrai que c'est un peu dommage d'assister à ce spectacle.
Et puis, on a réalisé aussi notre dépendance aux régions comme l'Asie, notamment sur l'industrie pharmaceutique. On manque de médicaments, on manque de masques. Tout un pan de notre industrie essentielle à la vie de notre pays est parti ailleurs.
Oui, je ne veux pas en rajouter, mais vous avez raison. Mais là où on avait justement réussi à Paris, qui était au départ difficile à envisager, l'indépendance énergétique de la France, qui était un sujet énorme à la fin de la Deuxième Guerre, au fond, on a rempli cette mission qui était de redonner à la France sa compétitivité, son indépendance énergétique dans le domaine de l'électricité.
Sur ce point de la dépendance énergétique, vous pointez quand même la responsabilité dans l'ouvrage de François Hollande, notamment.
Oui, entre autres, oui. Oui. Mais je pense que l'abandon plus ou moins programmé du nucléaire a été une catastrophe. Je me suis permis de le lui dire, au fond.
Oui.
Et on en subit les conséquences aujourd'hui. On va en voir les conséquences encore plus demain.
Oui. Alors, selon l'Institut Rexecode, pour que chacun ait les chiffres en tête, en 20 ans, par exemple, la France a perdu 40% de ses entreprises industrielles. Ça représente entre 2 et 3 millions d'emplois quasiment directs. Est-ce que le plan de relance Henri Proglio va dans le bon sens? Baisse des impôts de production, baisse des charges des entreprises et miser sur ces secteurs d'avenir comme... alors, il y a le nucléaire hier. Aujourd'hui, l'hydrogène, nous dit le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne perspective?
Je ne pense pas que l'hydrogène remplacera le nucléaire, pour être honnête.
Le plan dans son ensemble.
Mais le plan dans son ensemble était indispensable. Alors, est-ce qu'il sera suffisant? Il était nécessaire, est-il suffisant? Ça, je ne saurais en juger. Mais vous comprenez qu'on ne va pas rattraper 40% de l'industrie française avec un plan de relance en 2020. C'est illusoire. Donc, on part avec un handicap certain.
Il y a quelque chose que vous pointez dans votre livre, outre la responsabilité de François Hollande, on l'a évoqué sur l'indépendance française de l'énergie, c'est la responsabilité des pouvoirs publics en général sur ce que vous appelez la financiarisation de l'économie. D'ailleurs, vous n'êtes pas très tendre avec Emmanuel Macron, c'est lui qui vous a annoncé à 6h30 du matin, racontez-vous dans votre livre, que vous n'étiez pas reconduit à la tête d'EDF. Oui, vous ne le nommez d'ailleurs jamais, vous l'appelez le jeune ministre.
Non mais, au fond, qu'il me l'annonce, ce n'était pas en soi ni une nouvelle pour moi, quelque chose, un reproche que je puisse lui faire. Bon, il fallait bien que quelqu'un me l'annonce. Donc, il le fait. Il avait un emploi du temps surchargé. Je n'ai aucune amertume à cet égard. Oui. Enfin, je n'ai aucun reproche à formuler. Et j'avais même dit au président de la République à l'époque, quand il m'a reçu ensuite, que quand on a 85% du capital d'une entreprise, on peut se permettre de passer un coup de fil en disant « Écoute, je suis très content de ton travail. » Tu as fait un travail remarquable, j'ai besoin du job, ça suffit. Pas la peine de trouver des prétextes.
Et quand vous parlez de financiarisation de l'économie, alors
la financiarisation, c'est beaucoup
qu'est-ce
plus
que
grave.
Vous entendez derrière?
J'entends la dominance totale de la finance sur l'économie d'une part, et le court-termisme d'autre part. La spéculation et le court-termisme. Et c'est ça qui, au fond, domine l'histoire de l'économie récente, de l'économie des 15 dernières années. Le triomphe des traders, le triomphe du court terme, le triomphe de la spéculation, le triomphe de la finance au sens étroit du terme, pas au sens noble, d'une discipline qui doit servir à financer l'économie, à développer l'industrie. Et cette évolution-là, cette dérive-là, je la dénonce depuis des années déjà.
Oui.
Elle a atteint progressivement un niveau intolérable et on en voit les conséquences aujourd'hui.
Et le président Macron, pour vous, s'inscrit dans cette lignée ?
Non, pas spécialement, non, c'est pas le président de la République, au fond, qui a ni celui-là, ni le précédent, ni non. La mondialisation et la financiarisation sont allées de pair, et on a vu une vague, une déferlante mondiale s'abattre sur les économies, en général. Mmh. Alors certains pays ont mieux résisté que d'autres, ceux qui sont restés industriels, certains en ont tiré un certain profit, notamment la Chine, hein, qui a réindustrialisé son pays au moment où les autres se désindustrialisaient. Aujourd'hui, on voit les conséquences de cette évolution.
Il y a une critique très forte aussi, Henri Proglio, vis-à-vis des puissants que vous faites dans votre livre, et vous utilisez l'image de Davos, le grand forum économique auquel vous n'êtes jamais allé, malgré les invitations à répétition. Vous dites que ce forum est à l'image de ce qui est devenu aujourd'hui l'industrie, l'économie mondialisée, c'est-à-dire des parvenus qui jouent pour eux, mais qui ne jouent plus pour le bien collectif, d'une certaine manière.
C'est ma vision du monde. La communication excessive, l'entre-soi, au fond, qui sont quelque part symbolisés par ces rencontres, qui ne servent pas à grand-chose, dont il ne sort rien d'autre qu'une espèce de contentement mutuel.
Mmh. Votre parcours, j'en finirai par là, est celui de la méritocratie à la française, Henri Proglio, fils d'un marchand d'Antibes, et cette phrase qui revenait, dites-vous, dans la bouche de vos parents, « Qu'est-ce qu'on va faire avec les gamins ?» Vous le dites au début du livre. Eh bien, les gamins, vous et votre jumeau, vous avez fait HEC, et vous êtes devenu un capitaine d'industrie que l'on sait. Est-ce que vous pensez encore, Henri Proglio, que ce parcours-là, il est encore possible aujourd'hui ?
Je l'espère, je me suis battu toute ma vie pour faire en sorte que non seulement il soit possible, mais qu'il soit favorisé. J'ai beaucoup développé l'apprentissage, je me suis beaucoup impliqué dans l'ascenseur social, dans le fait de pouvoir remobiliser cet ascenseur qui est souvent en panne, et faire en sorte qu'au fond, on donne une chance à chacun de nos enfants, entre guillemets. Je pense que c'est important pour un pays, je pense que c'est une voie nécessaire si on veut accélérer les talents, enfin permettre aux talents d'éclore. J'ai la faiblesse d'imaginer que... J'avais au départ la faiblesse de penser qu'en faisant quelque chose d'exceptionnel et de susceptible d'être développé, je pouvais participer à créer une dynamique. Ça n'a pas été le cas, puisque j'ai jamais été imité d'une manière. Mais je disais à mes apprentis, et je le pense encore, que le jour où je verrais un apprenti me succéder, enfin à l'époque où j'occupais ces fonctions-là, je pensais que j'aurais réussi. C'est pas encore le cas. On a vu des apprentis accéder au poste de président de Mercedes en Allemagne, Daimler-Benz.
Mais pas encore en France.
On n'a pas encore vu en France.
Ça existe aussi en Belgique et en Suisse.
Oui, mais
Pas en France, c'est vrai. Merci beaucoup Henri Provilio d'être venu ce soir au micro d'Europe Soir. Donc je rappelle le titre de votre livre à lire, un peu plus de 300 pages, qui raconte 40 ans de vie industrielle. C'est absolument passionnant. Ça s'appelle Les Joyaux de la Couronne. C'est aux éditions Robert Laffont et c'est écrit avec Pierre Abou. Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1, Julien Bugier.
18h27, dans un instant, le rappel des titres et le débat des grandes voix. On ira notamment aux États-Unis et on reviendra également sur les déclarations polémiques du président du Conseil français du culte musulman. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec Isabelle Millet.
Et l'exécutif prépare la riposte face à la deuxième vague. Priorité à la santé, tout en sauvegardant l'économie si possible. L'hypothèse d'un reconfinement généralisé n'est pas exclue, avec des dérogations et des écoles qui pourraient rester ouvertes. Le chef de l'État devrait s'exprimer demain à 20h. Plus de 2000 emplois supprimés chez Sodexo, le spécialiste de la restauration collective, très impacté bien sûr par la crise avec le développement du télétravail. Les élèves ne reprendront la classe qu'à partir de 10h lundi prochain, afin de laisser du temps aux enseignants pour préparer l'hommage à Samuel Paty. La justice administrative valide la fermeture pour 6 mois de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis, accusée par les autorités d'avoir relayé des propos qui auraient conduit à l'assassinat de l'enseignant. Et puis personne dans les gradins du Vélodrome ce soir pour le match de l'Olympique de Marseille contre Manchester City en Ligue des Champions, mais beaucoup de monde sans aucun doute à l'écoute d'Europe 1. C'est un match que l'on suivra en direct sur l'antenne Grande Soirée Foot dès 20h.
Bah oui, et puis un peu de divertissement, ça fait du bien dans le contexte actuel. Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 19h pour le grand journal de l'info. Anissa nous a rejoint pour le temps et le temps demain s'annonce automnal.
Voilà, exactement Julien, vraiment des conditions
et en même temps, cette saison, j'ai envie
d'automne,
de vous
voilà cette saison avec un temps mitigé sur l'ensemble du pays, sur la moitié nord en plus des averses. Demain, le vent va souffler parfois fort jusqu'à 70 km/h dans les terres, 90 km/h sur les côtes. On note 100 km/h prévu demain sur la côte d'Opale. Il n'y a finalement qu'au bord de la Méditerranée et en Corse que le soleil va briller avec une grande douceur, 22 degrés dans le Var prévu demain après-midi. Les températures, elles sont de saison là aussi, avec 7 à 13 degrés demain matin et 13 à 22 au meilleur de la journée, 15 à Paris et Saint-Etienne, 16 à Nantes et Lorient, 17 pour Toulouse, Bordeaux et Lyon, 18 à Nice, il fait vraiment doux, 20 à Marseille et 22, je vous le disais, dans le Var, mais aussi à Perpignan.
À Perpignan, voilà, toujours dans le sud. Merci beaucoup Anissa,
à tout à l'heure à
19h. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, le débat des grandes voix comme chaque soir avec à mes côtés Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux messieurs.
Bonsoir Julien.
On va partir aux États-Unis dans quelques instants, mais d'abord on s'intéresse à cette polémique qui fait grand bruit en France. Faut-il montrer les caricatures de Mahomet dans les écoles coûte que coûte ? Le débat rebondit après la prise de parole ce matin du président du CFCM, Mohamed Moussaoui, le Conseil français du culte musulman. Alors hier soir, souvenez-vous, il appelait les musulmans de France à s'opposer aux attaques venues de la Turquie ou du Qatar. Mais ce matin donc, sur la question des caricatures, il a fait entendre une petite musique différente.
Je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour expliquer aux enfants la liberté d'expression. Il y a d'autres moyens de le faire. Je pense qu'à cet âge-là, il faut peut-être respecter aussi le sentiment de ces enfants. Ce que je peux dire clairement et avec d'une façon solennelle, contre la liberté d'expression et la volonté délibérée de foncer les sentiments des musulmans, il y a le devoir de la fraternité et de la responsabilité. Le devoir de la fraternité nous impose à nous tous de parfois de renoncer à certains droits pour que la fraternité règne dans notre pays.
Pour préserver l'ordre public, dit-il, il faut parfois renoncer à certains droits. Franchement, est-ce que ce n'est pas choquant ?
Moi, ça me choque.
Gérard Carrérou.
Je veux dire, j'avais eu de l'espoir en l'entendant dans sa première intervention.
Hier soir,
sortant
de l'Élysée.
Où il y avait on avait l'impression...
Mohamed Moussaoui est un modéré. Hein,
oui, mais justement, mais on avait l'impression qu'il était modéré, et en plus qu'il était d'abord français avant toute autre considération, puisqu'il soutenait le président Macron et il dénonçait les outrances qui avaient été proférées par un certain nombre de dirigeants de pays arabes où on faisait des comparaisons insultantes.
De pays musulmans, parce que la Turquie
n'est
pas un pays arabe.
Et il dénonçait cette comparaison odieuse avec la façon dont on traitait les juifs. Bon. Donc je me suis dit, voilà, bon, un homme qui quand même a évolué dans le bon sens. Son intervention sur le deuxième point, c'est-à-dire sur les caricatures, je la trouve inacceptable.
Oui.
Parce que pour une simple raison, il demande aux Français de renoncer à un de leurs droits
essentiels,
qui est le droit à la liberté d'expression.
Et le droit au blasphème.
Et au blasphème, donc, qui est inclus dans cette liberté d'expression depuis les Lumières, depuis Voltaire, depuis notre histoire de France. Et il demandait au nom de quoi? Au nom de la fraternité. Oui. Mais là, je bondis parce que, franchement, au nom de quelle fraternité des hommes, au nom quand même d'un islam qu'on peut considérer comme dévoyé, tout ce qu'on veut, mais c'est quand même au nom d'un islam que ces hommes ont tué 300 personnes en France depuis 5 ans, depuis Charlie Hebdo, jusqu'à Monsieur Paty, en passant par le Bataclan et Jean. C'est pas possible de nous demander aujourd'hui, au lendemain, 8 jours après cette exécution atroce de Monsieur Paty, de demander de soyez gentils, ne nous parlez plus des caricatures. Je trouve ça scandaleux.
Alors, Charles Villeneuve, une fois n'est pas coutume, mais je suis plutôt d'accord avec Gérard Carrérou. Charles Villeneuve.
Eh bien, moi, je comprends parfaitement le fait qu'il ait un peu, si vous voulez, évolué entre hier soir en sortant de l'Élysée et ce matin.
Évolué, je ne sais pas, Charles, parce qu'il y a deux choses très différentes. Et voilà. L'un sur les caricatures et le droit au blasphème, l'autre c'était sur les attaques venues de l'étranger sur la France et le président français.
Alors moi je dis évoluer, je maintiens.
Bien.
Pourquoi ? Parce que quand on regarde tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., un nombre très important de Français musulmans, avocats, médecins, experts comptables, Français musulmans parfaitement intégrés.
Oui.
Parfaitement intégré. J'en connais quelques-uns qui sont des amis. Vous savez très bien que j'ai été élevé dans ces pays-là et je les connais bien. Sont quand même choqués par le fait que le président de la République ait insisté, en quelque sorte, s'est approprié la rediffusion, l'exhibition à nouveau de ces caricatures montrant le prophète, les fesses à l'air, avec tous ses attributs. Etc. Ils sont choqués parce qu'ils sont musulmans, parce qu'on peut être choqué si on est chrétien, et d'ailleurs les chrétiens, les catholiques ont été choqués aussi par un certain nombre de caricatures. De la même manière,
Mais on a le droit d'être choqué, mais de là, s'auto-censurer, il y a quand même un monde d'écart.
Non, mais attendez.
Les catholiques n'ont jamais tué personne,
mais je vous ai quand même.
Les catholiques n'ont jamais tué personne, ni les juifs, au nom de ça, au nom de la liberté.
Est-ce que je peux aller au bout de mon raisonnement?
Mais quand même.
Tous les deux.
Charles Villeneuve.
Est-ce que vous allez pouvoir m'écouter jusqu'au bout?
Charles Villeneuve.
Oui, non, mais sinon, je.
Oui, oui, non, mais bien sûr, ne prends pas tes grands airs.
Non, je prends pas de grands.
Charles Villeneuve, allez-y.
Non, je préfère les laisser à toi, tes grands airs. Non. Parce que rien ne pourra avancer, rien d'efficace ne pourra réussir sans la participation, l'implication active, raisonnée et raisonnable de nombreux, très nombreux Français musulmans. S'ils ne participent pas, s'ils n'adhèrent pas aux actions de l'exécutif, il y aura tôt ou tard une scission.
Oui.
Et nous avons, et d'ailleurs, dans ce que fait notamment celui qui se prend pour un calife, un sultan turc Erdogan, il vise quoi ? Il vise... Tout le monde parle de toute façon des problèmes que nous avons avec lui, des rapports de force. Il vise la rue arabe de la principale communauté en Europe de Français musulmans ou musulmans. Et je vais finir.
Oui.
Je vais finir. Beaucoup d'entre eux condamnent le terrorisme islamique. Ils ont pris position d'ailleurs sur leur site. Sans appel. Ils condamnent sans appel, sans nuance, sans mesure, mais ils sont troublés par la formulation, si vous voulez, et le fait qu'il y a eu, voilà. J'essaie de leur expliquer qu'il est impossible, au nom de la liberté d'expression, qui est un héritage de l'esprit français, un héritage historique, d'y renoncer.
Oui.
Mais en même temps, je dis attention, il y a une gestion à faire de ces caricatures qui est un peu différente et plus nuancée. Je dis pas d'y renoncer. C'est ça que je veux dire.
Alors.
Je veux dire que s'ils ne participent pas et les histoires des guerres coloniales nous ont appris, aussi bien en Indochine qu'en Algérie, si nous n'avons pas une certaine participation des gens, de toute façon, qui sont musulmans, auprès de nous, on ne pourra pas...
Oui, mais
le président de la République ne
reportera pas
les preuves de force.
Charles Villeneuve,
est-ce que tu as compris la nuance?
Oui, j'ai compris la nuance.
Non, parce que je sais bien que tu veux polémiquer là-dessus.
Je ne veux pas polémiquer là-dessus.
Je ne polémique pas.
Je ne polémique pas, je dis simplement qu'on ne peut pas, demander à la France et aux Français de renoncer à une de leurs valeurs fondamentales. C'est au nom de cette valeur qu'on a tué atrocement.
Oui, oui, d'accord.
On
d'accord.
ne peut pas. Non, mais on ne peut. Donc, on ne peut pas leur demander.
On est d'accord là-dessus.
Oui, et alors, le reste, c'est un début de soumission. Moi, je veux bien, mais scanner, si vous voulez céder là-dessus, ça serait interprété.
Non, je veux dire.
Je veux dire. Messieurs,
je veux dire. Je veux dire. On va marquer une pause. On va marquer une pause.
Je veux dire que sans renoncer à la liberté d'expression, il faut les rallier.
Mais sans soumission.
Parce que ils savent décrypter l'adversaire et anticiper leur action.
Ils auraient compris que ça serait la
À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, on est toujours avec les grandes voix qui continuent le débat, vous le voyez pendant la pause, c'est animé. On part, s'il vous plaît messieurs, on part maintenant aux États-Unis, où on l'a un peu oublié avec cette actualité sanitaire en France qui nous occupe beaucoup, mais dans une semaine, on connaîtra le nom du nouveau président des États-Unis, Donald Trump, stop ou encore, ou Joe Biden. Et à 7 jours de ce scrutin, l'enjeu crucial pour l'avenir du monde, Donald Trump est parvenu à imposer la très conservatrice juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Elle vient d'être confirmée. Il y a donc désormais 6 conservateurs pour 3 progressistes, et ça n'est pas rien car ce sont des postes à vie.
Si je suis confirmée, je n'assumerai pas seulement ce rôle pour la cause des miens et encore moins dans mon propre intérêt. J'endosserai ce rôle pour vous servir tous. J'appliquerai le serment judiciaire qui me demande d'administrer la justice. Je rendrai justice avec respect, de manière équitable, aux pauvres comme aux riches et fidèlement. Et de manière impartiale, je m'acquitterai de mes devoirs au nom de la Constitution des États-Unis.
Voilà, Amy Coney Barrett, nouvelle juge de la Cour suprême. C'est une fervente catholique, mère de 7 enfants, très populaire à droite, car elle soutient notamment des positions conservatrices et anti-avortement. Alors question, messieurs, est-ce que cette nomination peut changer la donne dans l'élection de mardi prochain ?
C'est incontestablement, ce point, une victoire pour Trump. On avait quand même entendu beaucoup expliquer en France qu'il n'arriverait pas à la faire ratifier par le Sénat à temps, avant l'élection. Ouais. On avait attendu, on nous avait dit il va y avoir des défections chez les Républicains. Et paf, le marteau est tombé, 52-48 en faveur de sa nomination. 52-48, ça veut dire qu'il n'y a pas manqué un seul Républicain face aux 48 démocrates. Donc déjà, c'est une victoire de son camp pour Trump, mais la victoire, c'est effectivement le futur pendant 40 ans. Imaginons, elle peut très bien vivre pendant 40 ans, cette femme. Oui. Elle a 48 ans, elle peut aller jusqu'à 88 ans. 40 ans, ça fait 10 mandats de président américain. Bon, vous voyez un peu que ça peut durer. Mais c'est surtout là, à court terme, au moment de l'élection. Si l'élection est plus serrée qu'on ne le croit, jusqu'à présent, oui. L'ensemble des études, logarithmes, tout ce que vous voulez, algorithmes, sondages, donnent avantage à Biden.
Mais si c'est 9 points d'écart.
Oui, 7,
là où il y avait,
oui,
7, là où 9, il y avait 4 points ou d'écart, voilà, il y a 4 ans, entre Donald Trump et Hillary Clinton.
Oui. Tout à fait, il y a à peu près 2 fois l'écart avec Hillary Clinton la dernière fois. Mais si ça se resserre, et c'est pas impossible parce qu'il fait des meetings tous les jours et il semblerait qu'il y a un petit mouvement, bon, on verra. Mais si c'est serré, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est serré, il va y avoir à ce moment-là des recours.
Oui.
Immédiatement des recours. Comme on l'avait vu en 2000, dans la bataille entre Al Gore et George Bush.
Donc c'est la Cour suprême qui tranchera.
Et c'est la Cour suprême qui tranchera. Qui dira les recours sont acceptables ou pas acceptables. Et c'est donc à partir de là, le faiseur de roi sera la Cour suprême dans laquelle, aujourd'hui, il y a 6 Trumpistes face à 3 libéraux.
C'est un héritage qu'il va laisser, ça, Charles Villeneuve, Donald Trump. Ce sera quand même l'une de ses grandes victoires, même si c'est Joe Biden qui est élu la semaine prochaine à la présidence des États-Unis d'Amérique. Il aura considérablement modifié cette fameuse Cour suprême.
Mais pas seulement. Pas seulement la Cour suprême. Quasiment, il a nommé aussi à peu près plus de 200 juges fédéraux dans la plupart des États qui tous se choisissent parmi les conservateurs et militants politiques, oui, aussi. Et c'est à peu près le tiers, si vous voulez, de l'ensemble des juges fédéraux. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que s'il y a un succès, si vous voulez, durant les premiers 4 ans, le premier mandat de Donald Trump, c'est le plus grand succès de son mandat, indéniablement. Parce que là, il a façonné la Cour suprême pour des années. Hein. Comme le disait à l'instant Gérard, il y a 6 Trumpistes contre 3 démocrates, c'est énorme. Je ne vois pas très bien comment on peut renforcer, sauf modifier la Constitution, ce qui est possible, mais très difficile, oui, et très compliqué. Et d'ailleurs, une partie des démocrates sont contre cette suggestion qui a été faite par Joe Biden. Non, mais si vous voulez, l'élection, et puis en plus, c'est une femme qui vient d'être nommée. Et il ne faut pas oublier qu'elle est très représentative de la bourgeoisie du Middle West aussi. En plus, moi, la dernière mesure que j'ai maintenant, il y a tellement de sondages, c'est pas 9 points, c'est 8 points.
Oui.
Donc
oui,
ça serait très.
Entre 7 et 9.
Oui, ça commence à se serrer un peu plus. Alors, si Donald Trump est loin d'avoir gagné l'élection présidentielle, il l'a pas encore perdu.
Mais cette petite victoire, entre guillemets, pour lui, qui est une longue victoire dans la durée, car ça va considérablement modifier la société américaine.
Alors, moi, je dirais que c'est une grosse victoire.
C'est une grosse victoire, mais est-ce que ça peut l'amener à la victoire à la Maison Blanche la semaine prochaine? Est-ce que ça peut galvaniser ses troupes d'une certaine manière et fédérer ses électeurs?
Vous avez vu la cérémonie qu'il a organisée vite fait à la Maison Blanche. D'habitude, il n'y a aucune cérémonie particulière pour l'intronisation d'un juge.
Oui. Enfin,
je veux dire, ça se fait en privé, à la Cour suprême, etc. Là, il en a fait un meeting politique, un gros meeting politique. Lequel meeting politique, bien évidemment, est passé sur tous les réseaux sociaux, sur les chaînes de télé, etc. Donc, il en a fait un événement politique. Nul ne peut ignorer ce soir qu'il a gagné la bataille de la Cour suprême.
Est-ce qui n'est pas anormal? Parce que la Cour suprême, dans les mois qui viennent, va devoir de toute façon se décider sur l'assurance maladie, sur le droit à l'avortement, etc. Et on sait très bien qu'avec cette majorité quasiment absolue...
Tout est possible.
Il est vraisemblable d'ailleurs qu'elle va jouer un rôle important sur ce plan-là. En cela, c'est un argument électoral.
On se retrouve dans quelques secondes, les amis des grandes voix. Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, on continue de parler des États-Unis. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, mais on est maintenant à 7 jours de cette élection qui pourrait, dit-on, changer la face du monde. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on se retrouve pour un dernier segment avec le débat des grandes voix ce soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et on parle de cette élection américaine. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié, c'est dans 7 jours maintenant, le scrutin qui pourrait, dit-on, changer la face du monde, Trump ou Joe Biden. Les sondages donnent pour l'instant Joe Biden vainqueur, entre 7 et 8, 9% selon les instituts de sondage gagnants, mais rien n'est joué, comme vous le savez, et comme nous l'ont montré les dernières élections américaines contre Hillary Clinton. Alors, on évoquait la nomination de cette nouvelle juge à la Cour suprême, Gérard Carrérou. Peut-être rappelons pour nos auditeurs, très simplement, quel est le rôle aux États-Unis de cette Cour suprême?
Alors, à la différence, si vous voulez, de ce qui se passe, par exemple, chez nous, où le Conseil constitutionnel est arrivé tard dans notre vie politique, avec le général de Gaulle et la Ve République, et ses pouvoirs se sont augmentés au fil des années. En Amérique, ça fait partie du corpus, si vous voulez, qui fait ce qu'on appelle la Constitution américaine, depuis deux siècles.
Oui.
Et depuis deux siècles, la Cour suprême est l'organe... On ne peut pas aller au-dessus de la Cour suprême.
Oui.
Et un président doit s'incliner devant les décisions de la Cour suprême. Toutes les décisions. Or...
Mais ce sont les parlementaires qui font les lois,
oui,
quand même.
Oui, les lois sont soumises, et c'est la Cour suprême qui décide si la loi est juste, enfin, est constitutionnellement juste, ou pas. Mais comme les lois touchent à tous les éléments de la vie quotidienne, de l'avortement pour les femmes, du mariage gay, ou de, par exemple, le mariage gay, la Cour suprême l'avait ratifié.
Oui.
Il avait été voté dans un certain nombre d'États.
Donc la Cour suprême ne peut pas proposer comme la Cour constitutionnelle,
elle vérifie, si vous voulez, c'est le juge souverain qui déclare, oui, ça a été voté dans X États, peu importe, nous estimons que, et à un vote de la Cour suprême, il n'y a pas de recours, si vous voulez.
Non, elle ça a veut le dire... dernier mot, c'est en cela qu'elle est suprême.
Charles Villeneuve, mais ça veut dire que si Donald Trump, dans 7 jours, dans 8 jours, était élu pour une nouvelle mandature à la présidence des États-Unis d'Amérique, avec cette Cour suprême-là, il pourrait changer profondément la société américaine.
Et déjà, de toute façon, dans les semaines qui viennent, entre l'assurance maladie et le droit à l'avortement, c'est quand même des changements profonds, et il est vraisemblable qu'ils vont changer de manière considérable l'Obamacare. Notamment,
oui.
C'est-à-dire, si vous voulez, la sécurité sociale, enfin, le début de remboursement des frais de santé que Barack Obama avait amorcé, bien qu'il n'a pu aller jusqu'au bout de sa réforme. Mais là, de toute façon, c'est la Cour suprême, et s'il se trouve dans les 6 juges une majorité pour casser, si vous voulez, cet Obamacare, cette loi sur l'assurance maladie, il n'y en aura plus.
Alors, on ne va pas se risquer un pronostic, parce qu'on avait tous un peu perdu il y a 4 ans de ça. Mais quand même, vu de France, comment vous la sentez, cette élection, Charles Villeneuve?
Moi, je pense qu'il n'a pas encore perdu l'élection.
Vous pensez qu'il peut inverser la tendance?
Je pense que comme ça va se passer dans les États flottants, c'est-à-dire dans les États, ce qu'ils appellent les swing states,
oui.
Il fait une campagne en plus. Alors, je ne sais pas si c'est la nomination de sa proposition de Madame Barrett qui l'a boosté, mais manifestement, autant Joe Biden a arrêté quasiment sa campagne, autant lui est boosté, et c'est vrai qu'il a une dynamique indéniable dans sa campagne depuis maintenant 15
jours. Mais Joe Biden a fait une campagne très cohérente, c'est-à-dire il a réussi à transformer ce scrutin en référendum pour ou contre Donald Trump.
Oui, c'était bien sûr l'objet, mais il a fait une... Vous dites qu'elle était cohérente, mais elle était aussi, on peut dire, poussive.
Peu offensive, c'est vrai.
Oui, peu offensive, il s'est protégé, il a été confiné lui-même pendant beaucoup de temps. On ne peut pas dire qu'il ait fait une campagne, à l'américaine.
Oui.
Il a fait une campagne à la modeste, si vous voulez.
Avec un élément extérieur, ça a été le Covid quand même qui a perturbé sérieusement.
Sûr, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a été probablement plus restreint et plus modeste que d'habitude. Donc il y a encore quelques jours, je pensais que c'était fini, cuit pour Trump, parce que à un moment donné, vous savez, il y a eu 100 et quelques algorithmes faits par tous les think tanks de l'Amérique, et sur les 100 algorithmes, il y en a 98 qui ont sorti une réponse en disant il est battu. Donc je me suis dit, je suis pas plus fort que les 98 algorithmes. Voilà, donc.
Bien, réponse en tout cas dans 7 jours pour le vote, dans 8 jours pour les résultats. Édition spéciale évidemment toute la semaine prochaine avec les équipes d'Europe 1 du matin au soir. Et puis on a un dispositif, vous le savez, exceptionnel aussi toute cette semaine pour suivre les évolutions de cette campagne américaine.
Europe 1, Julien Bugier.
Voilà, 18h56, merci les grandes voix. Dans un instant, on se retrouve avec le Grand Journal et juste après, on ouvre comme chaque soir le Club des Idées. La France en télétravail, ce devait être l'une des annonces faites par l'exécutif dans les prochaines heures. Alors faut-il s'en réjouir et pourquoi ne pas l'avoir décidé plus tôt? On en débattra avec nos invités. À tout de suite.